Chapitre 2. Le Lombard du Pape. À Lyon, les cardinaux étaient toujours enfermés. Ils avaient cru lasser le régent. Leur réclusion durait depuis un mois. Les 700 hommes d'armes du comte de Forez continuaient de monter la garde autour de l'église et du couvent des frères prêcheurs. Et si, pour respecter les formes, le comte Savelli, maréchal du conclave, conservait les clés sur lui en permanence, ces clés ne servaient pas à grand-chose, puisqu'elles ne s'appliquaient qu'à des portes murées. Les cardinaux, jour après jour, transgressaient la constitution de Grégoire, et cela d'une conscience d'autant plus légère qu'on avait, envers eux, usé de la contrainte et de la violence. Ils ne manquaient pas de le dire jour après jour au comte de Forez, lorsque celui-ci montrait sa tête casquée par les trois orifices qui servaient à passer les vivres. À quoi, jour après jour, le comte de Forez répondait qu'il était tenu de faire respecter la loi du conclave. Ce dialogue de sourds pouvait se poursuivre longtemps. Les cardinaux ne logeaient plus ensemble, comme le prescrivait la Constitution, car, bien que la nef des Jacobins fût vaste, y vivre à près de 100 personnes sur de simples jonchées de paille était devenu bien vite insupportable, et d'abord par la pestilence qui se dégageait dans la chaleur de l'été.
Ce n'est pas parce que notre seigneur est né dans une étable que son vicaire doit nécessairement être élu dans une porcherie, disait un cardinal italien.
Les prélats avaient donc débordé sur le couvent qui communiquait avec l'église et s'inscrivaient dans la même enceinte. Repoussant les moines, ils s'étaient arrangés tant bien que mal à trois par cellule ou par chambre de l'hôtellerie, laquelle se trouvait évidemment fermée aux voyageurs. Chapelain et Damoiseau occupaient les réfectoires. Le régime alimentaire décroissant n'était pas davantage observé. L'eût il été, on n'aurait plus eu bientôt qu'une assemblée de squelettes. Les cardinaux se faisaient donc envoyer quelques gâteries de l'extérieur qu'on prétendait destinées à l'abbé et aux moines. On appliquait beaucoup d'habileté et de constance à violer le secret des délibérations. Des lettres, chaque jour, entraient au conclave ou en sortaient, glissaient dans le pain ou entre les plats vides. L'heure des repas, de la sorte, devenait l'heure du courrier, et la correspondance qui prétendait régler le sort de la chrétienté était fort tachée de graisse. De tous ces manquements, le comte de Forez instruisait le régent, lequel semblait s'en féliciter. « Plus ils auront commis de fautes et d'inobservances, déclarait Philippe de Poitiers, et mieux nous serons en mesure de sévir quand nous en prendrons décision. Pour les missives, laissez-les s'acheminer en les ouvrant au passage aussi souvent que vous le pourrez, afin de m'en révéler le contenu. » Ainsi fut-on averti de quatre candidatures qui échouèrent presque aussitôt que posées. Celle d'abord d'Arnaud Nouvelle, ancien abbé de Fontfroide, dont le comte de Poitiers fit savoir clairement par Jean de Forez qu'il ne trouvait pas ce cardinal assez ami du royaume de France. Puis les candidatures de Guillaume de Mandagou, d'Arnaud de Pélagru et de Béranger Frédol l'aîné. Gascon et Provençaux se faisaient mutuellement échec. On apprit aussi que le redoutable Caetani commençait à écœurer une partie des Italiens et jusqu'à son propre cousin Stefaneschi par la bassesse de ses intrigues et l'outrance démente de ses calomnies. N'avait-il pas suggéré, d'un ton de plaisanterie, mais on savait ce que de tels propos valaient dans sa bouche, d'évoquer le diable et de s'en remettre à lui pour désigner le pape, puisque Dieu semblait renoncer à faire connaître son choix? À quoi Duez, de sa voix chuchotante, avait répondu «
Ce ne serait pas la première fois, Monseigneur Francesco, que Satan siégerait parmi nous. »
Si Caetani demandait une chandelle, on chuchotait aussitôt qu'il en voulait fondre la cire pour procéder à un envoûtement. Les cardinaux, jusqu'à leur internement inattendu, s'étaient opposés les uns aux autres pour des motifs de doctrine, de prestige ou d'intérêt. Mais à présent, d'avoir vécu ensemble tout un mois dans un espace mesuré, ils se haïssaient pour des raisons personnelles, presque des raisons physiques. Certains se négligeaient, ne se rasaient ni ne se lavaient plus, et se laissaient aller à toutes les libertés de nature. Ce n'était plus par promesse d'argent ou de bénéfice que tel candidat cherchait à se gagner des voix, mais en partageant ses rations avec les gloutons, acte formellement prohibé. Alors, les dénonciations couraient d'oreille à oreille. Le Camerlingue a encore mangé 3 plats de son parti. Si les estomacs, par ses compensations, parvenaient à peu près à se satisfaire, il n'en allait pas de même d'autres appétits. La chasteté, à laquelle certains cardinaux avaient peu l'habitude de se soumettre, commençait d'aigrir furieusement le caractère de quelques-uns. Une plaisanterie circulait parmi les Provençaux. Si Doche est prêt à tout pour faire bonne chère, à Cologne, il n'est cher qui ne soit bonne affaire. Car les deux Colonna, l'oncle et le neveu, deux seigneurs athlétiques et mieux bâtis pour porter la cuirasse que la soutane, traquaient les damoiseaux dans les couloirs du couvent en leur promettant une bonne absolution. On ne cessait de se jeter à la tête de vieux griefs. « Si vous n'aviez pas canonisé Célestin, si vous n'aviez pas renié Boniface, si vous n'aviez pas consenti à partir de Rome, si vous n'aviez pas condamné les Templiers !» On s'accusait mutuellement de faiblesse dans la défense de l'Église, d'ambition et de vénalité. À entendre ce que les cardinaux disaient les uns des autres, on eût cru qu'aucun d'eux ne méritait même un vicariat de campagne. Seul Monseigneur Duez semblait insensible à l'inconfort, aux intrigues et à la médisance. Depuis 2 ans, il avait tant embrouillé les choses entre ses collègues qu'il n'avait plus besoin de se mêler de rien et pouvait laisser ses perverses machines tourner toutes seules. Frugal par nature et par habitude, la maigreur de la pitance ne le gênait nullement. Il avait choisi de partager sa cellule avec 2 cardinaux normands ralliés aux Provençaux, Nicolas de Fréauville, ancien confesseur de Philippe le Bel, et Michel Dubec, qui, trop faible pour constituer un parti, ne figurait point parmi les papables. On ne les redoutait pas, et leur installation en compagnie de Duez ne pouvait pas prendre l'aspect d'une conjuration. D'ailleurs, Duez voyait peu ses 2 compagnons. À heure fixe, il se promenait dans le cloître du couvent, généralement appuyé au bras de Guccio, qui ne cessait de lui recommander « Monseigneur, ne marchez point si vite. Voyez, j'ai peine à vous suivre avec cette jambe roide que je garde de ma chute à Marseille. Vous savez bien que vos chances, si je crois ce que j'entends, seront plus fortes à mesure qu'on vous croira plus faible. » « c'est vrai, répondait le cardinal, qui s'efforçait alors de courber le col, de fléchir le genou et de discipliner ses 72 ans. Le reste du temps, il lisait ou écrivait. Il avait pu se procurer ce qui lui était le plus nécessaire au monde, des livres, de la chandelle et du papier. Venait-on l'avertir d'une réunion dans le cœur de l'église, il feignait de quitter à regret sa stalle, et là, écoutant ses collègues s'injurier ou se larder de perfidie, il se contentait de souffler d'une voix à peine audible « Je prie, mes frères, je prie pour que Dieu nous inspire le choix du plus digne. » Ceux qui le connaissaient de longue date le jugeaient bien changé. Il semblait fort s'adonner aux macérations et offrait à chacun l'exemple de la bienveillance et de la charité. Quand on lui en faisait la remarque, il répondait simplement, accompagnant son murmure d'un geste désabusé, « L'approche de la mort, il est grand temps de me préparer. » Il touchait à peine à l'écuelle de ses repas et la faisait porter à l'un ou l'autre de ses rivaux. Ainsi, Guccio arrivait les bras chargés auprès du Camerlingue, qui prospérait comme bœuf à l'engrais en disant « Monseigneur Duez vous fait tenir ceci. Il vous a trouvé maigri ce matin. » Des 96 prisonniers, Guccio était l'un de ceux qui communiquaient le plus aisément avec l'extérieur. Il avait en effet pu établir rapidement une liaison avec l'agent de la banque Ptolomeï à Lyon. Par ce relais, s'acheminaient non seulement les lettres que Guccio envoyait à son oncle, mais aussi le courrier plus secret que Duez destinait au régent. À ces lettres-là était épargnée la disgrâce du séjour dans les plats graisseux. Elles passaient à l'intérieur des livres indispensables aux pieuses études du cardinal. Duez, en fait, n'avait d'autre confident que le jeune Lombard, dont l'astuce le servait chaque jour davantage. Leur sort était étroitement lié, car si l'un voulait sortir pape de ce couvent surchauffé par l'été, l'autre en désirait partir au plus tôt et puissamment protégé afin de secourir sa belle. Guccio, toutefois, était un peu tranquillisé au sujet de Marie depuis que Tholomeï lui avait écrit qu'il veillait sur elle comme un oncle véritable. Au début de la dernière semaine de juillet, lorsque Duez vit ses collègues bien là, bien éprouvés par la chaleur et irrémédiablement dressés les uns contre les autres, il décida de leur donner la comédie qu'il méditait et qu'il avait soigneusement mise au point avec Guccio.
« Ai-je assez traîné le pied ? Ai-je assez jeûné ? Ma mine est-elle assez mauvaise ? » demanda-t-il à son damoiseau improvisé. « Et mes compères sont-ils assez dégoûtés d'eux-mêmes pour se laisser conduire à une décision de fatigue ?»«
Je le crois, monseigneur. Je crois qu'ils sont bien mûrs. »
« Alors il est temps, je crois, mon jeune compagnon, de faire travailler votre langue. Pour moi, je vais me coucher et je ne me relèverai plus guère. »
Guccio commença de se répandre parmi les serviteurs des autres cardinaux en disant que Monseigneur Duez était très éprouvé, qu'il donnait des signes de maladie et qu'on devait redouter, vu son grand âge, qu'il ne sortît pas vivant de ce conclave. Le lendemain, Duez ne parut pas à la réunion quotidienne, et les cardinaux en murmurèrent entre eux, chacun répétant les bruits que Guccio faisait courir. Le jour suivant, le cardinal Orsini, qui venait d'avoir une altercation violente avec les Colonna, rencontra Guccio et lui demanda s'il était bien vrai que Monseigneur Duez fût en si grande faiblesse.
« Eh oui, Monseigneur, et vous m'envoyez l'âme toute fendue, » répondit Guccio. « Savez-vous que mon bon maître a même cessé de lire ? Autant dire qu'il a peu de chemin à faire maintenant pour cesser de vivre. »
Puis, de cet air d'audace naïve dont il savait jouer à propos, il ajouta
« Si j'étais à votre place, monseigneur, je sais bien ce que je ferais. J'élirais Monseigneur Duez. Ainsi, vous pourriez sortir enfin de ce conclave et en tenir un autre à votre guise tout aussitôt qu'il sera mort, ce qui, je vous le répète, ne saurait tarder. » « C'est une chance que dans une semaine, vous aurez peut-être perdu. »
Le soir même, Guccio aperçut Napoléon Orsini en conciliabule avec Stefaneschi, Alberti de Prato et Guillaume de Longy, tous Italiens favorables à Duez. Le lendemain, le même groupe se reforma comme de lui-même dans le cloître, mais grossi de l'Espagnol Luca de Flisco, demi-frère de Jacques II d'Aragon, et d'Arnaud de Pellagru, le chef du parti gascon. Guccio, passant auprès, entendit ce dernier prononcer
« Et s'il ne meurt pas ?»«
Ce serait moindre mal, » répondit l'un des Italiens, « que de rester ici 6 mois encore, comme cela nous guette si nous perdons cette occasion d'élire un moribond. »
Aussitôt, Guccio fit passer une lettre pour son oncle, où il lui suggérait de racheter à la compagnie des Bardi toutes les créances que cette banque possédait sur Jacques Duez.
« Vous pourrez les obtenir sans peine à moitié de la valeur, car le débiteur est donné mourant, et le prêteur vous tiendra pour folle. Achetez, même à 80 livres pour le sang, l'affaire, je vous l'ai dit, sera bonne, ou je ne suis plus votre neveu. »
Il conseillait en outre à Tholomeï de venir lui-même à Lyon au plus tôt qu'il le pourrait. Le 29 juillet, le comte de Forez fit officiellement remettre au cardinal Camerlingue une lettre du régent. Pour en entendre la lecture, Jacques Duez consentit à quitter son grabat. Il se fit porter plutôt qu'il ne marcha jusqu'à l'assemblée. La lettre du comte de Poitiers était sévère. Elle détaillait tous les manquements au règlement de Grégoire. Elle rappelait la promesse de démolir les toits de l'église. Elle faisait honte aux cardinaux de leur discorde et leur suggérait, s'ils ne pouvaient arriver à conclusion, de conférer la tiare au plus âgé d'entre eux. Or, le plus âgé était Jacques Duez. Quand celui-ci entendit ces mots, il agita les mains d'un geste épuisé et murmura
« Le plus digne, mes frères, le plus digne !» Qu'iriez-vous faire d'un pasteur qui n'a plus la force de se conduire lui-même et dont la place est plutôt au ciel si le Seigneur veut bien l'y accueillir qu'ici-bas ?
Il se fit ramener dans sa cellule, s'étendit sur sa couche et se tourna vers le mur. Le surlendemain, Duez parut retrouver un peu de force. Un affaiblissement trop constant eût éveillé les soupçons. Mais lorsque vint une recommandation du roi de Naples qui étayait celle du comte de Poitiers, le vieillard se mit à tousser de manière pitoyable. Il fallait qu'il fût bien mal en point pour avoir pris froid par une si forte chaleur. Les marchandages continuaient fermes, car toutes les espérances n'étaient pas éteintes. Mais le comte de Forez commençait à se montrer plus rude. Maintenant, il ordonnait de fouiller ostensiblement les vivres, qu'il avait d'ailleurs réduits à un service par jour, et il confisquait la correspondance ou la faisait rejeter à l'intérieur. Le 5 août, Napoléon Orsini était parvenu à rallier à Duez le terrible Caetani lui-même, ainsi que quelques membres du parti gascon. Les Provençaux flairèrent le parfum de la victoire. On s'aperçut le 6 août que Monseigneur Duez pouvait compter sur 18 voix, c'est-à-dire 2 voix de plus que cette fameuse majorité absolue qu'en 2 ans et 3 mois, personne n'avait pu réunir. Les derniers adversaires, voyant alors que l'élection allait se faire malgré eux et craignant qu'il ne leur soit tenu rigueur de leur obstination, se donnèrent les gants de reconnaître les hautes vertus chrétiennes du cardinal-évêque de Porto et se déclarèrent prêts à lui accorder leur suffrage. Le lendemain, 7 août 1316, on décida de voter. 4 scrutateurs furent désignés. Duez apparut, porté par Guccio et son second damoiseau. « Il ne pèse pas lourd !» murmurait Guccio aux cardinaux qui le regardaient passer et qui s'écartaient avec une déférence où se marquait déjà leur choix. Quelques minutes plus tard, Duez était proclamé pape à l'unanimité et ses 23 collègues lui faisaient une ovation. « Puisque vous le voulez, Seigneur, puisque vous le voulez !» souffla Duez. « De quel nom fais-tu choix ?» lui demanda-t-on. « Jean, je porterai le nom de Jean, Jean 22. » Guccio se leva pour aider à se lever le chétif vieillard devenu l'autorité suprême de l'univers. « Non, mon fils, non !» dit le nouveau pape. « Je vais m'efforcer de marcher seul. Puisse Dieu soutenir mes pas !» Les imbéciles crurent alors voir s'opérer un miracle, tandis que les autres comprenaient qu'ils avaient été bernés. Ils pensaient avoir voté pour un cadavre, et voilà que leur élu, fort aisément, circulait parmi eux, frétillant et frais comme une truite. Mais ils ne pouvaient encore imaginer combien il leur mènerait la vie dure pendant 18 années. Cependant, le Camerlingue avait déjà brûlé dans la cheminée les papiers du vote, dont la fumée blanche annonçait au monde l'élection du pontife. Les coups de pioche alors commencèrent à retentir contre la maçonnerie qui murait le grand portail. Mais le comte de Forez était prudent. Dès qu'on eut dégagé assez de pierres, il se glissa lui-même dans l'embrasure. « Oui, oui, mon fils, c'est bien moi !» lui dit Duez, qui avait rapidement trottiné jusque-là. Alors, les maçons achevèrent d'abattre le mur. Les 2 vantaux furent ouverts et le soleil, pour la première fois depuis 40 jours, pénétra dans l'église des Jacobins. Une foule nombreuse attendait sur le parvis, bourgeois et petites gens de Lyon, consuls, seigneurs, observateurs des cours étrangères, qui tous se pressèrent et s'agenouillèrent, tandis que cardinaux et conclavistes sortaient, formés en procession. Un gros homme au teint olivâtre qui se tenait au premier rang auprès du comte de Forez saisit le bord de la robe du nouveau pape quand celui-ci passa devant lui et porta l'ourlet à ses lèvres. « Oncle Spinello !» s'écria Guccio Baglioni qui marchait derrière le pontife. « Ah, vous êtes l'oncle. J'aime bien votre neveu, mon fils, » dit Duez au gros homme agenouillé en lui faisant signe de se relever. « Il m'a fidèlement servi, et je veux le garder auprès de moi. Embrassez-le, embrassez-le !» Le capitaine général des Lombards se redressa, et Guccio l'étreignit. « J'ai tout racheté, comme tu me l'avais dit, et à 6 pour 10 !» souffla Tolomei dans l'oreille de Guccio, pendant que Duez bénissait la foule. « Ce pape nous doit maintenant quelques milliers de livres. Beau travail, mon garçon !» « Tu es le vrai neveu de mon sang !» Quelqu'un derrière eux faisait aussi longue figure que les cardinaux. C'était le seigneur Boccas, principal voyageur des Bardis.
« Ah, tu étais donc à l'intérieur, mécréant, » dit-il à Guccio. « Si j'avais su cela, je n'aurais jamais vendu les créances. »«
Et Marie ? Où est Marie ?»
demanda anxieusement Guccio à son oncle.
« Ta Marie se porte bien. Elle est aussi belle que tu as de malice, et si le petit Lombard qui lui enfle le ventre tient de vous deux, il fera son chemin dans le monde. Mais va vite, va, mon garçon. Tu vois bien que le Saint-Père t'appelle. »